الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الرابع عشر من شهر شوال عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الحادي عشر من قراءة وشرح كتاب كشف الشبهات للمؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 8 juillet 2017 et nous allons entrer, inshallah, dans le 11e cours de l'étude de cet écrit de l'auteur Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé « La dissipation des ambiguïtés », c'est-à-dire dans le domaine du tawhid, du monothéisme. Et nous avons vu lors de notre dernier cours que nous entrons dans la 9e ambiguïté citée par l'auteur. Cette ambiguïté est la suivante. Ils disent, à partir du moment où nous témoignons que nulle divinité ne mérite l'adoration, excepté Allah, que nous croyons au messager, en la résurrection, au Coran, nous prions, nous jeûnons, et tout cela, comment pouvez-vous nous qualifier comme étant semblables à ceux concernant lesquels le Coran a été révélé, c'est-à-dire les gens de Quraysh notamment, qui eux justement niaient tout cela. Ils refusaient de dire « Ashhadu an la ilaha illallah », ils refusaient de prier, de jeûner, ils ne croyaient pas en la résurrection, ils ne croyaient pas au Coran, si bien que l'un d'entre eux disait que le Coran était de la sorcellerie. Eh bien, ces gens qui émettent ces ambiguïtés disent « Nous ne sommes pas pareils, il y a entre eux et nous des différences. » C'est-à-dire, comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahullah, que c'est comme s'il disait ici que ce shirk dont vous parlez, qui a été fait par les premiers, et dont vous dites qu'il est semblable au nôtre, ne nous concerne pas, car nous autres, nous attestons que seul Allah mérite l'adoration, nous croyons au Coran, en la résurrection, nous prions, nous jeûnons, on s'acquitte de l'aumône et l'on met en pratique les devoirs religieux. Alors comment pouvez-vous nous comparer à eux? Ils ont donc cité les différences qu'il y a entre eux, c'est-à-dire les polythéistes de notre époque, et les premiers. Or, ces différences n'ont aucun impact sur le jugement, celui que ces gens-là sont des polythéistes. Et c'est ce à quoi répond l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Car aujourd'hui, beaucoup de gens disent aux prêcheurs du tawhid qui invitent avec clairvoyance les gens à l'adoration d'Allah seul et sans associé, comment pouvez-vous dire que nous ne sommes pas croyants alors que nous autres témoignons que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah? Nous croyons au Coran, nous appliquons les ordres d'Allah Azza wa Jal, et les versets que vous prenez pour argument pour nous juger ne nous concernent pas, mais ils concernent plutôt des gens qui, eux, ne faisaient pas tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est donc injuste de nous comparer à eux. Et c'est une ambiguïté qui trouve ses réponses, bien sûr, dans le Coran et la Sunna. Et nous avons vu que l'auteur, rahimahullah, va y répondre avec 9 réponses. Nous avons vu les 2 premières lors de notre premier cours, de notre dernier cours. La première est la suivante. Il n'y a aucune divergence entre les savants sur le fait que celui qui croit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais renie une partie de son message, n'entre pas dans l'islam. Tout comme celui qui croit en une partie du Coran, alors qu'il en renie une autre, ne peut être musulman. Tout comme celui qui croit au droit à l'adoration pour Allah Azza wa Jal, puis mécroit à la prière, Ou alors celui qui croit au tawhid, à la prière et mécroit à la zakat, pareil pour le hajj, eh bien il ne pourrait être croyant. À partir du moment où il y a une chose en laquelle on a mécru, on ne peut être croyant. Ça c'est un premier point. Ça c'est pour dire que le fait de témoigner la ilaha illallah, de prier, de jeûner, ne garantit pas à la personne d'être musulmane dans le cas où cette dernière commet quelque chose qui annule l'islam, qui annule la foi. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة » C'est-à-dire qu'un tel individu, on parle ici de celui qui croit en une partie du livre et mécroit en une autre, ou croit en une partie du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et mécroit en une autre, n'est pas musulman. Il n'a pas un seul poil de l'islam. فَإِذَا كَذَّبَهُ فِي وَاحِدٍ وَصَدَّقَهُ فِي الْأُلُوفِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ قَاضٍ عَلَى تِلْكَ الْأُلُوفِ Même si la personne renie le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une partie de son message alors qu'elle croit en la plupart de son message comme la prière, comme l'obligation de l'aumône, etc. Eh bien cette partie en laquelle elle a mécru va annuler tout ce en quoi elle a cru. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Puis nous avons développé ce point. Nous avons ensuite vu la deuxième réponse, le fait que s'il en est ainsi, si l'individu croit et accepte de croire que celui qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une partie puis mécroit en une partie comme par exemple l'obligation de la prière, alors il mécroit, il n'est pas croyant tout simplement, que dire alors de la plus grande des obligations qui est le tawhid, le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si la personne dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, prie, jeûne, s'acquitte de l'aumône, accomplit le pèlerinage, mais renie le tawhid, commet le polythéisme, l'association, eh bien, son islam deviendra vain et caduque. Il sera annulé. Et le fait que cette personne dise la ilaha illallah autant de fois qu'elle veut, n'aura pas d'effet sur le fait que son islam va rester à partir du moment où cette personne a commis ce qui est annulatif de son islam. Troisième façon de répondre à cela. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Cette troisième façon de répondre à cette ambiguïté, au fait de dire qu'à partir du moment où la personne dit « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, croit, prie, jeûne, s'acquitte de l'aumône », elle ne peut en aucun cas être décrite comme étant polythéiste. Eh bien, une des façons de répondre à cette ambiguïté est le fait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu la tribu appelée Banu Hanifa, en dépit du fait qu'ils étaient musulmans depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils témoignaient que nul autre qu'Allah ne méritait l'adoration et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était son messager. Ils priaient, ils appelaient à la prière. De qui s'agit-il? La tribu de Banu Hanifa, ce sont des gens qui, dans l'histoire de l'islam, ont suivi un homme appelé Musaylama. Musaylama, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un individu qui a prétendu à la prophétie. Il a dit qu'il était prophète au même titre que Muhammad alayhi salatu wa sallam, au point où il a pris en ennemi toute personne qu'il a renié, voire même jusqu'à combattre toute personne qui s'est opposée à sa prétention mensongère. Il a inventé ce qu'il a appelé surah, des chapitres d'un livre qu'Allah lui aurait révélé. Et il a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a d'ailleurs envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Je suis un messager au même titre que toi. » Wal'iyadu billah. Son histoire est connue par bon nombre de gens. Ce qui est à retenir ici, c'est que suite à ce fait historique, s'est déroulée une bataille dans laquelle les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, se sont opposés à Musaylama, qu'ils ont justement jugé comme étant un polythéiste, comme n'étant pas un croyant. De même, la tribu de Banu Hanifa, les gens qui étaient avec lui, et ces gens qui étaient avec lui justement, disaient « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Ils priaient et ils accomplissaient même l'appel à la prière et autres. Et pourtant, cela n'a pas empêché les compagnons de les prendre en ennemi, cela n'a pas empêché les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous de façon unanime, d'avoir la conviction que ces gens ne sont pas croyants, même s'ils ont fait tout ce que vous venez d'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que Musaylama est un prophète, alors qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran qu'il n'y aura aucun prophète après Muhammad alayhi salatu wa salam. Et le prophète lui-même alayhi salatu wa salam a dit « La nabiyya ba'di » Il n'y aura aucun prophète après moi. Il a même averti sa communauté en leur disant que 30 personnes après lui allaient prétendre à la prophétie, mais ils seront tous des imposteurs et des grands menteurs. Eh bien, on voit que les compagnons n'ont pas dit « Attention, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas croyants car ils disent « La ilaha illallah ». Au contraire, ils ont été unanimes pour les déclarer comme étant des polythéistes et comme n'étant pas des musulmans ni des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont mécru en une chose connue dans la religion. Le shir te dit que si, à partir de là, celui qui a donné cette ambiguïté te dit « C'est différent, car ils ont été qualifiés comme tels et pris en tant qu'ennemis à cause du fait qu'ils ont dit que Musaylama est un prophète. » Eh bien, à ce moment-là, c'est exactement ce que l'on recherche. Écoutons la suite. Ils diront que cette tribu disait que Musaylama était un prophète, c'est-à-dire que c'est différent de nous. Nous ne disons pas que ceux que nous adorons sont des prophètes, et eux ont dit que Musaylama était un prophète, et nous ne disons pas cela. Ils veulent entendre par cela qu'ils sont différents. Regardez la suite. Nous leur dirons que c'est justement là la question. Car si quelqu'un élève une personne au statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est affranchie et par conséquent, elle n'est pas croyante. Si quelqu'un qui a élevé une créature au degré d'un prophète, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, on dit de cela que cet acte fait sortir de l'islam. Que dire alors de celui qui a élevé une créature au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant, en lui vouant le culte, en sollicitant comme on sollicite Allah subhanahu wa ta'ala? On voit bien que c'est encore plus grave. Alors on voit que cet argument est absolument contre eux et il n'est pas en leur faveur. Puis l'auteur rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, a cité quelques exemples de gens qui à son époque étaient pris en divinité en dehors d'Allah. Il y a Shamsan, il y a Yusuf, ou comme on va le voir plus tard, il y a le dénommé Taj. Et le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, a été interrogé concernant ces personnages. Il a répondu que ce sont des gens qui font partie des imams du polythéisme et qui ont prétendu le droit à l'adoration en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au point où certains les craignaient comme l'on craint Allah, azza wa jal, et ils se sont mis à raconter les concernant des histoires qu'un individu doué de raison, auquel un individu doué de raison ne peut croire. Il disait par exemple de Taj qu'il était aveugle et il habitait très très loin de l'endroit où se trouvaient ses adeptes, ses adorateurs, et il venait sans que personne ne le conduise récupérer ses offrandes auprès d'eux. Wal'iyadu billah. Sachez ici que ce n'est qu'à titre d'exemple que ces noms sont cités, mais c'est quelque chose qui reste valable à notre époque, en tout temps, en tout endroit, chaque fois que l'on adorera un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit un prophète, un compagnon, un ange ou toute autre personne. Wal'iyadu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cela que le Cheikh rahimahullah a dit: que dirons-nous de quelqu'un qui élève telle ou telle personne, qu'elle soit un compagnon ou un prophète, au statut du Seigneur des cieux et de la terre? Puis il dit Subhanallah, et ensuite il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le sens rapproché est: c'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Donc on voit ici que avec cette manière de répondre, l'ambiguïté va tomber à l'eau. Ce sont des faits historiques qui se sont déroulés dans l'histoire de l'islam que l'auteur a commencé à citer ici. Le premier, c'est les gens de Banu Hanifa qui ont suivi Moussaïlama et l'ont élevé au degré de prophète, alors qu'il n'y aura aucun prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cause de cette action, ils ont été déclarés comme étant des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas musulmans, par les compagnons et sans divergence. Malgré le fait qu'ils disaient la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, qu'ils accomplissaient l'appel à la prière. On voit donc qu'il existe dans l'islam des choses que l'on appelle les annulatifs de l'islam, et que le simple fait de faire ces actions qui sont obligatoires et méritoires n'est pas suffisant tant que la personne ne se préserve pas de ce qui annule sa foi. Et c'est ça qu'il faut comprendre et que beaucoup de gens malheureusement n'ont pas compris ou alors ont très mal compris. Wal'iyadu billah. Les compagnons, pour eux, tous ces gens-là avaient quitté l'islam à partir du moment où ils avaient taxé, où ils avaient jugé autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam messager après lui. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ces ignorants. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit: كَهَذَا الطَّبْعِ عَلَى قَلْبِ هَذَا الْجَاهِلِ. De cette façon, ou comme le fait qu'Allah azzajal a scellé le cœur d'un tel ignorant. كَيْفَ يُتَصَوَّرْ أَنَّ مَنْ رَفَعَ رَجُلًا إلى رتبة رجل فهو كافر وإذا رفع رجلا في رتبة جبار السماوات والأرض لا يكفر. Comment peut-on concevoir que celui qui élève un homme au degré d'un autre homme qui est un prophète a mécru, puis après cela dire que celui qui élève un homme au rang du Seigneur des cieux et de la terre n'a pas mécru? Et ainsi cette ambiguïté disparaît. Mais l'auteur continue encore à détruire cette ambiguïté, et dans sa quatrième réponse, il cite justement ceux à l'époque de Ali ibn Abi al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époux de sa fille Fatima, le père de Al-Hassan al-Hussein, et également un des califes de l'islam. Eh bien, à son époque, des gens se sont introduits dans les rangs des musulmans. Et ont voulu dévier les musulmans de la voie de l'islam, au point où ils ont été dire que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était Allah, wal'iyadhu billah. Ils n'ont pas dit cela d'un coup, mais ils ont procédé étape par étape. Ceci à cause du dénommé Abdullah ibn Saba, qui était un juif yéménite et qui a faussement embrassé l'islam dans le but de semer la zizanie et faire naître la division dans les rangs des musulmans. Donc, il s'est montré comme musulman en disant « Ashhadu an la ilaha illallah » puis il a commencé à émettre des fausses informations dans le rang des musulmans. Au début, ils ne le croyaient pas. Puis le temps est passé. Et petit à petit, on a commencé à adhérer à ses propos et à adhérer aussi à cette croyance, wal'iyadhu billah, d'où sont sortis les chiites qu'on appelle Shi'a. Shi'a qui signifie le parti, car ils se sont appelés Shi'atu Ali, le parti de Ali. Wal'iyadhu billah. Ils ont exagéré à l'égard de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, au point où ils l'ont élevé au rang d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et l'ensemble des compagnons ont jugé ces personnes-là comme étant des kuffars, comme étant des apostats, comme étant des gens qui ont quitté l'islam, parce qu'ils ont dit de lui qu'il était Allah. Wal'iyadhu billah, c'est quelque chose de gravissime. Eh bien, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit les concernant, kulluhum yad'un al-islam. Ils prétendaient tous être musulmans. Wa hum min ashabi Ali radiyallahu an. Ils ont accompagné Ali. Ils ont vécu avec lui. Wa ta'allamu al-ilma min as-sahaba. Ils ont pris la science des compagnons. ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما. Mais ils ont eu à l'égard de Ali la même croyance qu'ils ont eue concernant Yusuf, Shamsan et leurs semblables. Donc, concernant tous ces gens qui sont adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit: comment alors est-ce que les compagnons se sont montrés unanimes pour dire que ces gens-là ne sont pas croyants? Puis il dit: atadhunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin. Pensez-vous que les compagnons taxaient de mécréants les musulmans? Atadhunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amthalihi la yadur. والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. Pensez-vous qu'avoir une croyance envers les saints en les adorant, que ce soit Taj et ses semblables, comme ceux de notre époque, Ahmed Tijani et autres, pensez-vous que croire en eux n'est pas quelque chose de nuisant pour la personne, mais croire en Ali ibn Abi Talib rend la personne comme étant quelqu'un sorti de l'islam? C'est donc une très mauvaise compréhension que de dire cela. Wal'iyadhu billah. Donc on voit encore ici l'égarement de ces gens-là. Ces gens-là qui sont ash-shi'atul ghaliya, des gens qui ont accompagné Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et qui ont exagéré à son égard. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim a dit: زادوا في محبته وتعدوا الحد. Ils ont exagéré dans l'amour qu'ils lui ont porté au point d'outrepasser les limites. وذلك بدسيسة ناس من أصحابه منافقين. Ceci à cause de gens infiltrés parmi eux qui étaient du nombre des hypocrites. دسوها ليفسدوا على الناس دينهم. أتباع عبد الله بن سبا. Ce sont les suiveurs du dénommé Abdullah ibn Saba qui ont infiltré dans les rangs des musulmans ce genre de pensée. Idda al-Islam, وأراد أن يفتك بأهل الإسلام ويدخلهم في الشرك. Il prétendait être musulman et a voulu à l'intérieur faire entrer les musulmans dans le polythéisme. Ils ont donc exagéré à son égard. Ils ont prétendu l'islam, ils œuvraient de façon apparente, ils appliquaient les injonctions divines, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ils ont eu la foi en Ali comme on doit l'avoir en Allah. Wal'iyadu billah. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont mécru, comme le font ceux qui ont la foi au Abdul Qadir al-Jilani, ou alors al-Aidarus, ou alors d'autres encore, qui sont très très nombreux et qui sont adorés en dehors d'Allah, jusqu'à notre époque. Wal'iyadu billah. Comme le dit le Cheikh, qu'a'tiqadi ahli zamanina fi ghayrihim. Falamma ra'a dhalika minhum aliyun radiyallahu anhu. Puis, il a cité aussi la croyance de ceux qui ont eu notre époque, la croyance des gens de notre époque qui est semblable à la leur. Puis il a cité d'autres choses aussi. Rahimahullahu ta'ala. Ensuite, il dit que comment les compagnons auraient-ils pu être unanimes pour dire que ces gens-là ont quitté l'islam, est-ce que les compagnons auraient alors dit que des gens qui sont musulmans ne le sont pas? C'est impossible. C'est-à-dire que ces gens-là disaient « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » mais à partir du moment où ils ont commis un annulatif, à partir du moment où ils ont dit que « Ali ibn Abi Talib radiyallahu an est Allah azza wa jal » eh bien, ils ont quitté l'islam. Wal'iyadu billah. Ainsi, l'on voit que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas injustement déclaré des gens qui ont dit la ilaha illallah comme n'étant pas des croyants. Ensuite, il continue et dit, pensez-vous qu'avoir la foi en des hommes tels que le dénommé Taj et leurs semblables, c'est-à-dire pensez-vous que ceux qui adorent des créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne quittent pas l'islam pour autant, car c'est ce qu'ils disent justement. Les gens qui adorent Tijani, qui adorent Bamba, qui adorent tous ces noms-là, et ceux dont on ne connaît pas aussi les noms, ils disent on ne m'écroit pas, on dit la ilaha illallah. Eh bien on répond à ces gens-là que ceux qui ont dit que Ali était Allah Azza wa Jal et qui ont adoré Ali en dehors d'Allah ont mécru à l'unanimité des compagnons. Pensez-vous que ceux qui adorent Ali m'écroient et ceux qui adorent ceux qui sont moindres que Ali ne m'écroient pas? C'est impossible. Pour cette raison, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Rahimahullah a dit, à partir de là, les gens qui ont donné cette ambiguïté ne sortent pas de trois cas. Le premier, imma an yaqulu inna as-sahabata ghalatu wa akhta'u wa kafaru al-muslimin. Soit il est obligé de dire que les compagnons ont fait erreur et ils ont taxé injustement des musulmans comme étant des kuffars. وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِوَضُوحِهِ فِي السِّيَرِ وَالتَّارِيخِ. Et ceci est impossible, comme cela est clair dans l'histoire. Les compagnons n'étaient pas comme cela. Donc ils ne peuvent pas le dire. Supposons qu'ils disent une telle parole concernant les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, alors ce sera suffisant pour leur répondre. Car là, ils deviendront comme les Khawarij. Les Khawarij qui ont taxé d'apostats les compagnons qui les ont insultés. Wal'iyadu billah. Ou alors, ils seront obligés de dire non, les compagnons n'ont pas été injustes envers eux. Ce qui était le cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième situation dans laquelle ils peuvent se trouver, ceux qui émettent cette ambiguïté, est la suivante. Wa imma an yaqulu إن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. Ils seront alors soit, non, pardon, la deuxième situation, c'est qu'ils disent que adorer des pieux, des saints, les prendre pour intermédiaire entre la personne qui invoque et Allah subhanahu wa ta'ala en leur demandant de nous sortir des calamités, cela n'est pas un mal. Et croire que le faire la même chose avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu fait sortir de l'islam. Ils ne peuvent pas dire une telle parole. فَإِنْ قَالُوا إِنَّهُ لَا يَكْفُرْ كَفَ أَنَّهُ كُفْرٌ وَشِرْكٌ. Car s'ils disent ici, non, ils ne m'écroient pas, eh bien cette simple parole-là, c'est du kufr. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc on ne peut pas dire une chose concernant l'adoration de soi-disant saints qu'on a élevés au degré d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on leur a voué le culte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de souci à le faire, il n'y a pas de problème à agir ainsi, puis faire la même chose avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, fait sortir de l'islam. C'est pour cela que le shirk va dire que s'il y avait une excuse dans cela, cette excuse aurait été plus pour Ali ibn Abi Talib, car sans le moindre doute, il est beaucoup plus pieux que toute personne qui est venue après, que toute personne qui est venue après, qui est adorée en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on excuser le polythéisme avec tel et tel individu, puis dire avec Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'il fait sortir de l'islam? C'est vraiment une très mauvaise compréhension qui est due à l'ignorance. À ce moment-là, ils seront obligés de venir dans la troisième situation qui est la suivante. Al-amr al-thalith wa huwa an yud'inu wa yuslimu wa yusallimu anna man ta'allaqa ala ghayri Allah bi ayyi naw'in min anwa' al-ibada fa huwa kafirun kharijun min al-millati murtad. أغلظ كفرا ممن ليس معه هذه الأعمال وأن إقراره بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك فرق غير مؤثر وغير نافع فظهر بذلك أنهم ضلال في تشبيههم وترويجهم فإن الغالية في علي ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام وإن قالوا ليس من الغلو ففي أول الكتاب ما يبين أنه من الغلو بعبادة المخلوق مع الله سبحانه وتعالى. Et là on voit la troisième situation qui est l'obligation de se soumettre et de reconnaître que celui qui s'attache à tout autre qu'Allah Azza wa Jal en vouant l'adoration est sorti de l'islam et sa mécréance est pire que celui qui n'est pas croyant à la base. Elle est pire que celui qui n'est pas croyant à la base. Car lui est entré dans l'islam puis a quitté. Wal'iyadhu billah. Également, le fait que la personne reconnaisse les deux attestations de foi, la prière, le jeûne, l'aumône, etc., n'est pas une différence qui influe sur le jugement. À partir du moment où elle a mis en pratique un annulatif de l'islam. C'est aussi simple que cela. Car les gens qui ont exagéré à l'égard de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ont eu la même croyance que les gens de notre époque ont eu et ne cessent d'avoir envers autre que Ali, parmi les gens qu'ils ont déclarés comme étant des saints, des pieux. S'ils répondent, ce n'est pas de l'exagération à leur égard, alors à ce moment-là, il y aura dans le début du livre, dans les parties que nous avons déjà étudiées, la preuve que ceci en est bel et bien. Et ainsi, cette ambiguïté est encore une fois réfutée, mais le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, continue son argumentation et à détruire cette ambiguïté. Il dit وَيُقَالُ أَيْضًا بَنُ عُبَيْدٍ الْقَدَّاحِ الَّذِينَ مَلَكُوا الْمَغْرِبَ وَمِصْرَ فِي زَمَنِ بَنِ الْعَبَّاسِ كُلُّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ وَيُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَلَمَّا أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ فِي أَشْيَاءَ دُونَ مَا نَحْنُ فِيهِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى كُفْرِهِمْ. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit on dit aussi que la tribu de Banu Ubaid al-Qaddah, qui a dominé le Maghreb et l'Égypte du temps du règne de la monarchie abbasside, témoignait que nulle divinité ne mériterait réellement l'adoration excepté Allah, et que Mohammed était son messager, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait la prière du vendredi et en groupe. Mais quand cette tribu manifesta une divergence avec la croyance des musulmans, tous les savants furent unanimes pour dire qu'ils ont par cette croyance quitté l'islam. Wala'iyadhu billah. Qui sont-ils? Banu Ubaid al-Qaddah, ce sont des chiites qui ont dominé le Maghreb et l'Égypte un temps donné dans l'histoire de l'islam. Ils se sont appelés al-Ismailiyoun, ils se sont appelés al-Fatimiyoun en s'affiliant à Fatima radiyallahu anha, la noble fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr faussement, car il a été prouvé dans l'histoire qu'ils n'ont aucun lien avec elle. Et ils avaient énormément de mots, et ils ont même beaucoup d'innovations. Ce sont eux d'ailleurs qui ont inventé la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant eux, la célébration de la naissance n'existait pas. Ils ont dit, puisque les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, alors nous devons fêter celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont fêté celle de Ali, ensuite Al-Hassan, Al-Hussein, ensuite leur gouverneur, etc. Ces gens-là, à l'époque de ce que l'on appelle dans l'histoire islamique la monarchie abbasside, ces gens-là disaient la ilaha illallah, ils priaient en groupe, ils se rendaient à la prière du vendredi. Mais les savants de l'islam les ont vus contredire la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la croyance que l'on doit avoir. Ils ont élevé leurs gouvernants à des degrés qu'ils ne méritent pas. Alors, les savants de l'islam ont dit d'eux qu'ils n'étaient pas des musulmans, malgré le fait qu'ils appliquaient en apparence des actes de l'islam. Donc on voit bien que les savants ont été unanimes, malgré leur parole « La ilaha illallah » Muhammadun Rasulullah, pour dire que ces gens-là n'étaient pas des musulmans. Eh bien, l'auteur, le commentateur, Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah, a dit « فَكَيْفَ بِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ التَّظَاهُرِ بِدِينِ الْإِسْلَامَ عَنْ نَقْضِ أَسَاسِ الْمِلَّةِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ كُفْرُهُ عِنَادًا أَوْ جَهْلًا الْكُفْرُ مِنْهُ عِنَادٌ وَمِنْهُ جَهْلٌ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَى الْكَافِرِ أَنْ يَفْهَمَهَا بَلْ مَنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ مِثْلُ مَا يَفْهَمُهَا مِثْلُهُ فَهُوَ كَافِرٌ سَوَاءٌ فَهِمَهَا أَوْ لَمْ يَفْهَمْهَا وَلَوْ كَانَ فَهْمُهَا شَرْطًا لَمَا كَانَ الْكُفْرُ إِلَّا قِسْمًا وَاحِدًا وَهُوَ كُفْرُ الْجُحُودِ بَلِ الْكُفْرُ أَنْوَاعٌ وَمِنْهَا الْجَهْلُ وَغَيْرُهُ المقصود أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهم والأمة لا تجتمع على ضلالة. Et ici, il dit, que dire alors de cette époque que nous vivons, où les gens annulent l'essence, la base de l'islam. Et il n'y a pas de différence entre le fait que cela soit fait par ignorance ou alors que cela soit fait par obstination ou par entêtement. Car la mécréance a plusieurs catégories. Elle a plusieurs catégories. Ensuite, nous allons lire la dernière, Inch'Allah ta'ala. L'auteur a dit, la dernière pour aujourd'hui bien sûr. وَيُقَالُ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلَّا لِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ وَالْقُرْآنِ وَإِنْكَارِ الْبَعْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى الْبَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. La sixième façon de répondre à cette ambiguïté. On dit aussi que si les gens avant l'islam n'étaient considérés comme étant polythéistes que parce qu'ils commettaient le shirk, démentaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, niaient l'avènement de l'heure ou alors la résurrection. Si on disait cela, car là, dans les façons d'argumenter de ceux qui émettent les ambiguïtés, on comprend qu'en réalité, il n'y a de shirk ou il n'y a de sortie de l'islam que si la personne associe Allah Azza wa Jal, mais croit au prophète alayhi salatu wassalam, au Coran, ne croit pas à la résurrection, ce qui bien sûr est faux. Mais c'est ce qui est compris automatiquement de ce qu'ils disent. Quelle est la réponse à cela? La réponse est tout simplement une question. À quoi sert alors ce chapitre mentionné par les savants dans tous les ouvrages de jurisprudence islamique, toute école confondue, ce fameux chapitre intitulé « Bab Hukm al-Murtad », jugement de celui qui quitte l'islam, c'est-à-dire celui qui commet une parole, qui prononce une parole ou qui commet un acte, qui adhère à une croyance, qui le fait contredire l'essence de l'islam et qui le fait sortir de l'islam, tout simplement. À quoi servent tous ces chapitres qui sont mentionnés dans ces ouvrages de jurisprudence islamique? Cela montre que les savants, eux, savaient qu'il y avait des choses que l'on appelle alunatifs de l'islam. Et il s'agit du musulman qui commet un acte annulatoire ou annulatif de son islam. Ils ont cité plusieurs catégories, justement, plusieurs actions, plusieurs paroles. Ils ont même cité des paroles qui paraissent légères et simples, mais qui pourtant font sortir la personne de l'islam et lui font quitter sa foi. À quoi a servi tout cela? À quoi tous ces chapitres dans la jurisprudence ont servi? Si c'est pour dire après, justement, que on ne mécroit en Allah azzawajal que si l'on fait le shirk avec le fait de renier le Coran, renier le prophète, ne pas croire à la résurrection. Non, bien au contraire. Il existe des paroles, lorsqu'elles sont prononcées, elles sont annulatives de l'islam. Il existe des actions, lorsqu'elles sont faites, elles sont annulatives de l'islam. Même si la personne dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة بل هو قسم والقسم الآخر هو ما تقدم. Ce chapitre mentionné par les savants dans les ouvrages de fiqh islami, de jurisprudence islamique, concernant les annulatifs de l'islam. À l'unanimité des savants, celui qui commet un acte, ou qui prononce une parole, ou qui a une croyance contradictoire à la base de l'islam, eh bien, cette personne sort de l'islam. Sans divergence chez les savants. On ne parle pas ici de celui qui quitte tout l'islam, qui renie tout l'islam, non. Même si celui qui renie tout l'islam, bien sûr, quitte et sort de l'islam. Mais on ne parle pas de ça. On parle de celui qui renie une chose, qui prononce une parole, qui adhère à une croyance, qui fait une seule action, qui font partie de ce qui sont des choses, comme être, qui font partie des annulatifs de l'islam. Donc, c'est gravissime que d'avoir une telle parole. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le Cheikh a dit « Hatta inna ba'da ahli al-madhahib yukaffiruna man sarghara isma al-masjid aw al-mushaf » Au point où certains savants des écoles ont même dit que le fait de mépriser le nom de la mosquée, le mépriser le mushaf, fait sortir de l'islam. Puis il a cité d'autres choses aussi, en résumant, il dit, rahimahullah, que l'apostasie, c'est-à-dire le fait de sortir de l'islam après y avoir été, a des causes. Lorsqu'une seule de ces causes est faite, la personne a quitté l'islam, même si elle a dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, même si elle a prié, eh bien cela n'est pas suffisant à partir du moment où elle a annulé ce qu'elle a fait. À l'image de quelqu'un qui accomplit ses ablutions et entre en prière. Et en pleine prière, il annule ses ablutions par le fait qu'un gaz s'échappe de lui. Va-t-on dire, pourquoi as-tu dit que sa prière est annulée alors qu'il prie devant toi? La réponse est non, car il a perdu un gaz, et perdre un gaz est annulatif des ablutions, vu que les annulations sont annulées, vu que les ablutions sont annulées, la prière est caduque. Eh bien, c'est pareil pour l'islam, même si la personne dit la ilaha illallah à partir du moment où elle commet un annulatif. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On s'arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera lors de notre prochain cours. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.